Oui, bonjour Daniel, c'est Anaïs de Charente-Maritime. J'écoute avec grand plaisir ton émission sur le monde au sujet du livre de Péan et Cohen. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre notre son de cloche dans les médias, d'habitude si hypocrite et consensuel. Enfin, les journalistes qui réagissent, ça fait plaisir. Et surtout en tant que lectrice sardonique du journal PLPL, fondé par Halimi et Rimbert. Donc, je signale à l'attention des auditeurs de France Inter ce petit journal pour lire Palu. Qui est Salvateur. Au revoir.
Bonjour, je suis Magali, j'habite à Agde, près de Montpellier, et je lis Le Monde depuis des années et des années. Et je suis heureuse du livre de Péan, parce que, toute seule, dans mon coin, je disais, mais il y a une dérive sur ce monde, parce qu'il ressemble de plus en plus à France Dimanche. Ce sont des grandes annonces, c'est plus du tout ce monde sérieux, un peu rébarbatif que je m'obligeais à lire. C'est devenu un effet d'annonce qui me choquait beaucoup. Enfin, j'étais toute seule dans mon coin, et bon, je n'en parlais à personne. Et les discussions en ce moment me confortent dans cette idée.
Oui, bonjour. À propos de cette histoire sur le journal du Monde, je trouve qu'on a une illustration assez flagrante des durées des patents dans le monde des médias. J'illustre ça. Entre hier et aujourd'hui, j'ai compté que les deux journalistes étaient passés dans pas moins de 3 émissions de radio. Et j'en oublie peut-être. À chaque fois dans ces émissions, les animateurs et les intervenants se plaignent d'avoir reçu le livre lundi dernier, d'avoir dû le lire très vite. Et certains se plaignent de ne pas avoir pu mener de contre-enquête, en accusant même, ce qui est un peu de la mauvaise foi, les auteurs d'avoir mené un coup médiatique. À ma connaissance, c'est pas les auteurs qui décident de l'émission où ils vont passer. Alors ma question c'est, est-ce que c'était impossible d'attendre une semaine avant de parler du livre? Va-t-on avoir un écho d'une éventuelle contre-enquête ou est-ce qu'on devra attendre les procès menés par la rédaction du Monde pour savoir en quelque sorte la véracité des affirmations? Deuxième remarque, je trouve qu'il y a un effet de miroir évident. Ici on traite du monde médiatique, donc il y a un écho qui s'amplifie énormément. L'an passé, le livre Noir Chirac de Verschave, dont le contenu en termes de révélation était tout aussi atomique, n'a pas du tout eu le même traitement à ma connaissance. Enfin, troisième remarque, étant donné qu'Alain Gérard Flamma a dit tout le mal qu'il en pensait ce midi à la radio, à mes yeux, ça en fait un motif supplémentaire pour l'acheter. Au revoir.
Affûter les auditeurs de France Inter, de Radio France, là des allusions à l'émission de France Culture d'hier midi qui recevait. Vous l'avez déjà compris, Pierre Perrin et Philippe Cohen et d'autres invités autour du livre La face cachée du monde. Perplexité, expectative, indignation, étonnement, soulagement et ricanement sardonique. Nous, de notre côté, on trouve un peu de tout dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, suite à l'émission d'hier autour de ce livre qui, en un mot, raconte, et plus que raconte, puisqu'il s'agit d'une longue enquête, l'histoire d'un contre-pouvoir devenu abus de pouvoir, c'est-à-dire qui prend pour sujet, vous avez compris, le quotidien Le Monde, le journal Le Monde, qui est plus qu'un journal, mais tout le monde le sait, une institution, 634 pages d'enquête fouillée, fouinée, précise, et cet auditeur a bien raison, c'est pas facile du tout de lire ça en quelques heures, en quelques, même en quelques jours. C'est pas facile à digérer, surtout l'essentiel, c'est-à-dire la partie enquête. Alors évidemment, la réplique apportée pour l'instant par le journal Le Monde a soulevé les aspects les plus discutables du bouquin, erreurs, diffamations, calomnies, etc. N'empêche que, cet auditeur soulève l'essentiel, et le canard enchaîné l'a fait également cette semaine. Le journal Le Monde, fier de son indépendance, aura bien à répondre, il faudra bien répondre à la question essentielle qui se pose au-delà de toute polémique. Quelle est la nature exacte des rapports que la direction du Monde entretient ou a entretenu avec les grandes entreprises françaises et leurs dirigeants, avec le groupe de Jean-Luc Lagardère, avec les NMPP, avec Publicis, avec François Pinault, comme avec la direction du journal gratuit 20 minutes, ou même avec Jean-Marie Messier du temps où Vivendi assurait la trésorerie du journal par contrat un bonus de 2,5 millions d'euros de publicité sur ces sujets stratégiques. Payons et Cohen, je lis le canard enchaîné là pour apporter un élément, un éclairage. Se sont livrés à une enquête dont les sources paraissent pour le moins sur le canard enchaîné. Voilà, on en est là. Donc, si vous avez raison, trop tôt. La presse est trop pressée. Les médias sont trop immédiats. Et la question est trop importante et trop grave pour qu'on se contente. On va pas s'arrêter là. Il faut maintenant, effectivement, qu'il y ait, suite à cette enquête, contre-enquête. Et comme le disait judicieusement cet auditeur, ce serait heureux que ça nous parvienne. Nous méritons mieux que d'attendre que le juge tranche et que le débat soit au tribunal. Nous sommes assez grands et Le Monde un assez grand journal pour que nous débattions et que ces questions, ces graves questions, parce que c'est une question de confiance, soient publiquement débattues. Alors les échos, eh ben en voilà d'autres dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. On va écouter vos réactions sur ce sujet et puis sur d'autres sujets, parce qu'il n'y a quand même pas que ça dans la vie, ni dans l'actualité. Et puis, on retrouvera, s'il nous reste du temps, nos invités, Pierre Péan et Philippe Cohen. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Bon, un grand merci à Péan et à Cohen. Depuis quelques années, mon mari et moi, nous demandions si nous avions un jugement qui commençait à déconner, excusez le terme, tellement on était étonnés par la façon dont les articles étaient écrits, par le parti pris des Pleven, des Minc et des Colombani, l'apothéose ayant été la position de Colombani lors des discussions avec les nationalistes corses, à tel point qu'on se demandait si on lisait Le Monde ou Le Figaro. Il ne reste à l'heure actuelle qu'un seul journal indépendant et sur lequel on puisse compter, dans lequel on puisse croire, c'est Le Canard enchaîné, et c'est bien regrettable. Alors merci pour leur livre que je suis allée acheter très rapidement à Lyon.
Ouais, Jean-Michel Lebotte de Brest, ben voilà, ce que je voulais vous dire, hein, Daniel Mermet, que je trouve que voilà de bien piètres journalistes, hein, et des supporters ballarduriens qui m'ont toujours fait voter Mitterrand puis Jospin. Je trouve que la propagande n'est plus ce qu'elle était, hein, quand la calomnie en tient lieu. Qu'Edoui Penel ait su faire acte de contrition quand il fut pris en faute est à coup sûr la marque d'un dangereux terroriste. Et que dire du Corse Colombani? Ciao. Et Mac alors.
J'ai acheté hier le livre de Pierre Péan et de Philippe Cohen, qui a fait l'objet de l'émission de ce soir. Vraiment formidable. Hein. Je suis rendu à page 189. Alors oui, livre formidable, mais de temps en temps j'ai des petites inquiétudes. Alors il y en a une dont je voudrais vous faire part. Page 176. Les auteurs parlent de la relation entre Jean-Marie Colombani et Hugues Portelli. Et ils écrivent notamment ceci: tout au long de la campagne qui précède l'élection présidentielle de 95, Jean-Marie Colombani fera part à Portelli, sans réserve aucune, de son engagement total aux côtés du Premier ministre candidat, c'est-à-dire Balladur, épousant chaque jour espoir et déception au gré des sondages, suggérant des interventions, etc. Alors, c'est là où je me pose quelques questions, comme dans ce dialogue téléphonique que nous avons reconstitué. Alors, suit effectivement un dialogue Colombani-Portelli, mais un dialogue téléphonique que vous avez, auteur, reconstitué. Alors ça m'inquiète, parce que vous l'avez reconstitué comment, sur quelle base, et là, c'est présenté comme quelque chose qui, même reconstitué, a eu effectivement lieu. Alors, ce serait gentil à l'émission de demain soir, que j'écouterai comme tous les jours, j'écoute là-bas si j'y suis, ce serait gentil d'essayer de me donner des éléments pour apaiser peut-être mes inquiétudes. Merci en tout cas et bonsoir à tous.
Pointu, précis. Ah oui, bah c'est ça une enquête. Hein. Alors, les deux invités ne sont pas là, Pierre Péan et Philippe Cohen, on va les entendre, mais c'est des éléments que nous avons enregistrés hier. Mais enfin, ça donne une idée, c'est des questions posées par cet auditeur bienveillant, montre ce que ça va être quand même. Hein, parce que je crois que les marchands de Stabilo, indépendamment des marchands de livres, de ce livre-là, sont heureux et se frottent les mains ce week-end.
Oui, bonjour, c'était juste pour enchaîner sur l'émission sur Le Monde. C'était juste pour vous dire que je suis documentaliste à l'Éducation nationale depuis pas très longtemps et qu'il s'avère que Le Monde semble être le seul abonnement qui va de soi dans les centres de ressources des établissements du secondaire, jusque y compris dans certains établissements type collège. On sait tous que, bien sûr, Le Monde est à la portée de tous les collégiens. Donc voilà, j'ai essayé de faire rentrer Libération, par accident sont apparus des Humanités et autres rouges et dans ma bibliothèque, et tout ça a dû disparaître illico presto sur demande d'un inspecteur.
Salut, c'est David à Bordeaux. Bah écoute, je t'ai appelé parce que j'ai écouté hier l'émission sur le livre de Péan et Cohen, La face cachée du monde. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et puis c'est très bien que tu les fasses s'expliquer et que tu les invites pour qu'ils parlent du journalisme et du monde en particulier. Par contre, je regrette un petit peu quelque chose, c'est de, en lisant le papier de Plenel dans le Monde du 26, quand tu lis que en fait le père de Colombani aurait été un agent fasciste, ou que en fait Plenel aurait été un agent de l'étranger qui n'aime pas la France. Enfin, j'aimerais que tu leur poses la question de savoir si c'est vraiment des accusations, des informations qui servent leur livre et qui permettent une meilleure compréhension.
Je voudrais simplement parler de... On va partir de deux extrapolations raisonnables, hein, pour employer un terme, disons, qui colle à peu près, qui faisant appel à des règles, disons, pour être sûr du bon côté de la barrière, conservatrice. C'est-à-dire que il faut attendre dans ce que je dis qu'il y a de fortes probabilités pour que... Je n'ai pas lu le livre de Pierre Péan, voilà le sujet de mon appel, mais enfin on peut partir du principe que Pierre Péan d'une part est crédible, on n'écrit pas 634 pages avec les précautions d'usage, les avocats, les mesures protectrices, 2 ans d'enquête, sans que derrière il y ait un fond. Je ne présume pas d'ailleurs de la forme, il peut y avoir des risques d'excès, des propos excessifs, voire attaquables, comme l'annonce Le Monde. Je pars aussi du principe que s'il n'y a que 20%, je donne un chiffre comme ça, 20%, même s'il n'y a que 20% de vrai dans ce qui est écrit dans ce livre, eh bien ça suffit. J'ajouterais que la réaction de type bourgeoise et farouchée qui a été conduite 24 heures après d'ailleurs la diffusion du livre, auquel visiblement ils n'ont pas eu accès par les journalistes du Monde, eh bien ça en dit long. Je veux dire que ce que Plenel peut faire sur une page en prenant sur 4 colonnes des extraits qu'il arrange du livre pour ensuite en tirer les conclusions qu'il souhaite sur la forme finalement, qu'il s'exprime sur la forme et pas sur le fond, comme d'autres journaux l'ont clairement dit, eh bien ça en dit long. Alors j'ai que 3 mots à dire, hein, les gars, les 3 là. Vous partez et vite.
Comment fabriquer un golem social ? Pouvoir médiatique et pouvoir politique sont complémentaires. Le public est bonne patte. Le pouvoir médiatique malaxe le public. Les informations lui agitent le pathos. Le voilà devenu opinion. Alors le pouvoir politique peut imprimer son idéologie, son utopie sociale au sein de l'opinion. Cette utopie va s'agglomérer et cristalliser autour du squelette de pouvoir pour lui donner sa chair. Et voilà l'humain total, idéal, qui se constitue. C'est le golem social.
Gérard à Cannes. Je voudrais répondre à un message qui vient d'introduire votre émission sur Péan. Je trouve extrêmement sain que l'on puisse remettre en cause les prérogatives des journalistes. Quant à José Bové, je pense qu'il n'est pas au-dessus des lois. En l'occurrence, il s'est mis hors la loi en détruisant des sites. Peut-être ne faut-il pas ces sites, mais je pense qu'il faut un vrai débat. Et en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi il serait gracié après avoir fait des dégâts. Quant à vos émissions, encore bravo. Je voudrais vous dire que, en tant qu'être humain, je suis extrêmement malheureux, miséreux même, de voir ce qui se passe à travers le monde. Penser que pour soi-disant remettre de la démocratie en Irak, les Américains, l'administration américaine admet qu'il va falloir déplacer 2 millions de personnes, 2 millions. Je crois que même s'ils ont un gouvernement condamnable, aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire, c'est préserver d'abord ces 2 millions de réfugiés. N'y a-t-il pas assez de par le monde, sans compter les milliers d'enfants qui vont encore mourir? Pourquoi faire? Pour donner raison à la soi-disant première démocratie du monde. Quelle misère! Je crois que vraiment le genre humain devrait avoir honte de se donner des dirigeants comme l'on voit en Angleterre aujourd'hui avec le Premier ministre, en Espagne ou même et surtout aux États-Unis, où on oublie de réfléchir à la misère humaine avant de parler de pétrole et d'économie derrière un faux nez de démocratie.
C'est la honte d'être un être humain qui fait agir les hommes. C'est une réflexion, je crois, de Gilles Deleuze qui me traverse l'esprit. J'espère que Deleuze a raison. Et en tout cas, ça donnerait raison à cet auditeur. Des réactions, vous avez compris, suite à l'émission d'hier, La face cachée du monde, avec Pierre Péan et Philippe Cohen. Ça chauffe quand même pas mal dans la boîte vocale de la Basilisque.
Oui, bonjour Daniel. Tu nous fais comprendre avec ton émission là que les médias, que ce soit Le Monde, Ouest France ou bien d'autres journaux, obéissent à des critères qui sont loin d'être démocratiques, participent à des luttes d'influence. Tu parlais de guerre de tranchées à l'intérieur de Ouest France. Ça prouve bien que tout ce média ne nous appartient pas du tout. Il est temps qu'on fasse nos médias à nous, qu'on trouve des formes alternatives pour faire diffuser l'information et faire diffuser l'information que l'on veut voir diffuser, l'information réelle sur les grèves dans notre pays comme dans l'étranger, comme à l'étranger, l'information sur les accidents du travail. Et je ne saurais trop recommander la lecture du journal Pour lire, pas lu, que l'on peut se procurer à Marseille, boîte postale 2326, à 13213 Marseille, CEDEX 02, ou d'autres journaux alternatifs du même style, qui permettent d'abord de se faire une idée sur l'opacité des journaux nationaux, et reconnu dans la France, et d'autre part trouver d'autres alternatives. À bientôt, au revoir.
Oui, Michel Le Mans. C'est super quand même. L'aide de gauche est de découvrir qu'on lit les journaux de droite depuis 10 ans. Enfin, moi, ça fait un certain temps que je le lisais beaucoup moins, avec beaucoup plus de circonspection. Et ça se voyait. Alors, je suis étonné de l'attitude de ces gens qui n'y croit plus, tout d'un coup. Je crois que ça te fait baiser, alors que c'était évident.
Salut Daniel et toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Voilà, alors, comme tu fais la publicité du livre concernant Le Monde de Péan et Cohen, moi je veux faire une publicité gracieuse d'une exposition qui va malheureusement se terminer bientôt, une exposition de photos sur la guerre par un Américain qui s'appelle James Nartway, N-A-C-H-T-W-E-Y, l'œil témoin. C'est un photographe courageux qui n'y a pas que des bouches en Amérique, qui a fait des photos sur les guerres. Il a été sur place. Et c'est une exposition qui a lieu à la Galerie Mansart du 58 rue de Richelieu, de la Bibliothèque nationale de France. Elle se termine, il faut y courir parce qu'elle se termine le 2 mars. Donc c'est de 10h à 19h, le dimanche de 12h à 19h. Il faut voir absolument cette exposition. James Nartway, l'œil témoin.
Faut pas exagérer non plus, faut pas croire que vous allez prendre le pouvoir sur cette émission là. C'est uniquement à cause du livre de Péan et Cohen, La face cachée du monde, que vous avez tout cet espace. Mais bientôt on n'aura plus de boulot du tout, nous, si vous continuez comme ça. Il y a des annonces pour des expos, il y a des critiques de toutes sortes, compétentes, pointues. il faudrait quand même que vous pensiez que c'est nous qui avons le pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. Et toute l'histoire de ce livre, c'est de d'écrire et d'enquêter sur un contre-pouvoir devenu abus de pouvoir. Je parle du livre, bien évidemment. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres sujets, vous en avez parlé.
Je viens de voir Madeleine à la télévision, vraiment, il m'écœure. C'est impossible de voir un gars comme ça critiquer Saddam Hussein pour une résolution de l'ONU qui ne respecte soi-disant pas. Et à côté de ça, il protège et il fait des louanges de Sharon qui, lui, s'assoit sur toutes les décisions de l'ONU en faisant des morts et tout ça à longueur de journée, dont la presse, malheureusement, parle de moins en moins. Et donc... C'est abject de voir un mec comme ça prétendre représenter la France et être élu. Allez, salut.
Deux chiffres en parallèle. Il manque 250 millions de dollars pour éradiquer complètement le choléra de la planète. Les États-Unis vont mettre 900 milliards de dollars pour perpétuer une guerre que tout le monde considère comme complètement inutile. J'aime bien les petits parallèles comme ça. Bonne soirée.
Et pourquoi il faut pas voter Besancenot? C'était la petite question.
Le jeune leader révolutionnaire, très gendre idéal, est invité dans les médias. Camarades, révoltez-vous, faites la révolution et achetez mon ouvrage « La révolution facile en 10 leçons » aux éditions Gallimatia. Et achetez aussi mon disque de chansons révolutionnaires. 0,01% de votre argent sera intégralement reversé aux pauvres dans le besoin et aux sinistrés du grosso modo. La révolution aussi, ça fait vendre. C'est l'essentiel. Le reste, on s'en fout.
Eh oui, c'est vendredi. Et c'est les messages dans le répondeur, dans la boîte vocale et sur le répondeur, comme on dit là-bas, si je vous rappelle encore une fois, numéro 01 56 40 37 37. Encore quelques messages et puis on retrouve nos invités.
Quand ce n'est pas Sarkozy qui vient faire de la provocation dans nos banlieues, eh bien, c'est Monsieur Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, qui montre du doigt nos enfants. Il me semble qu'une campagne contre le racisme et l'antisémitisme est incomplète si elle ne concerne qu'une des formes du racisme. Parce qu'il me semble que la République s'est construite sur les valeurs de l'égalité, que je trouve choquant que le ministre de l'Éducation nationale que vous êtes, Monsieur le ministre, dénonce un antisémitisme grandissant chez nos enfants, chez les jeunes de banlieue. Cela est une source de communautarisme si au départ elle est basée par un traitement discriminatoire. Et c'est ce que vous faites, Monsieur le ministre. À quand une campagne contre le racisme à l'embauche des jeunes issus de l'immigration? Il me semble qu'une campagne contre le racisme est incomplète si elle ne concerne qu'une des formes du racisme en France. Le racisme à l'embauche est un racisme avéré lorsque on s'appelle Mohamed ou Malika. À quand un livre blanc sur le racisme que subissent tous les enfants de plein fouet dès que la couleur de leur peau est différente lorsqu'on est black ou beurre? Allez, Luc Ferry, un peu de courage et précise ta pensée en accusant la communauté maghrébine d'être responsable de tous les maux. Pour ma part, la femme algérienne que je suis et qui est devenue subitement arabe dans ce conflit du Proche-Orient est tout aussi sensible du sort fait aux Palestiniens comme à celui du Rwanda ou de la Côte d'Ivoire. C'était Sakina de Bordeaux. Merci.
Bonjour, c'est Jean-Louis. Voilà, je voulais dire que la télévision ou la radio, du moins c'est ce qui se dit de service public, ont quand même des obligations vis-à-vis des gens qui les regardent ou qui les écoutent. Je veux parler par exemple de France 3, aujourd'hui à midi, qui ont fait 10 minutes sur un cuisinier pour Bourges qui s'est suicidé, et 30 secondes sur le chômage en augmentation. C'est quelque chose qui va vraiment pas là. Alors mes dames et messieurs, rappelez-vous que vous êtes un service public, au service du public, pas au service seulement des Bourges. Il devrait y en avoir pour tout le monde.
J'entendais ce midi au journal de 13h un journaliste qui parlait à propos d'un entretien donc avec le représentant des PME, que les grandes entreprises dégraissent. Alors j'avais trois petites remarques à faire à ce monsieur. D'abord peut-être d'utiliser les mots justes, parce qu'on dégraisse un objet ou un vêtement, mais on ne dégraisse pas donc des effectifs. Si, je crois que c'est dans le langage familier, sur le Larousse. Mais enfin bon, Deuxièmement, ça serait bien aussi que ce journaliste présente ses excuses aux petits morceaux de gras qui, maintenant, je pense, vont certainement s'affiner, faute d'un travail pour s'acheter à manger. Et troisièmement, il y a encore du boulot, parce que il faut constater que le vocabulaire donc néolibéral contamine doucement.
Bonjour, j'appelle à propos de Monsieur Loiseau, là j'entends 4000 personnes pour son enterrement, etc. Bon, je sais pas si on va nous pomper l'air, entre guillemets, encore longtemps avec ça. Des entretiens d'évaluation dans les entreprises, il y en a régulièrement, si des gens ça va pas, ils se font taper sur les doigts, heureusement ils se suicident pas tous si ça va pas. Les dames qui ont été licenciées là de je sais plus quelle usine, Mulinex, il y en a une qui s'est suicidée aussi, je sais pas s'il y avait autant de monde. Les chefs sont starisés. Par contre, je pense à ces enfants, parce que perdre leur papa à cet âge-là, ça, je trouve ça très triste, et je sais de quoi je parle. Mais par contre, je pense aussi à Bocuse, le ridicule qu'il amène sur cette profession que je connais bien. Avachi, là, au milieu des girls du Lido, je sais pas quoi. J'ai voulu acheter un autocuiseur il y a 2-3 jours. Il y avait Monsieur Bocuse, les bras croisés. Mais vraiment, c'est lamentable. Par contre, les petites stagiaires, qui sont dans les écoles hôtelières, alors qu'on ne trouve plus de personnel dans ce milieu-là, et qu'on traite comme des moins que rien. Je pense également à une qui était tombée dans les pommes chez un grand cuisinier que je nommerai pas, et qu'on poussait des pieds, qui braillait, pour pas dire qui gueulait, au milieu des poissons en disant qu'il ne prendrait plus jamais de fille. C'est tout un tas de choses comme ça. Maintenant, je trouve ça triste que Monsieur Loiseau se soit suicidé, mais qu'on vienne pas faire une polémique et nous prendre la tête alors là qu'on nous parle de guerre en Irak, etc. Bon, ça, c'est un coup de gueule. J'approuve le monsieur qui a téléphoné il y a 2 ou 3 jours. Et voilà, c'est tout. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Pierre Péan et Philippe Cohen. Là-bas, si j'y suis, la face cachée du monde, deuxième partie.
Flight number 2, arriving from New York.
I'm Eric Sean at the United Nations, where in just hours from now, the British will introduce a second resolution co-sponsored by the US and Spain. It's number 18 and could be Saddam's last chance.
You know, I war is my last choice.
Voilà, on n'en est pas là, c'est vrai, on n'en est pas à Fox News, on n'en est pas là, il s'en faut de beaucoup, mais néanmoins, Pierre Péan et Philippe Cohen, dans ce livre enquête de 2 ans menée par ces deux auteurs, La face cachée du monde, du contre-pouvoir aux abus de pouvoir, nous disent des choses troublantes sur ce journal qui est plus qu'un journal, qui est une référence, qui est une institution française et qui, chaque jour, module, suscite et fabrique l'opinion. Je ne dirais pas fabrique le consentement, ce serait trop polémique. La polémique, elle est, vous avez entendu, d'ores et déjà partie. Hein. Ça fait déjà un certain nombre d'années, dans toute l'histoire évidemment, des médias, de la presse. On a une contestation de la presse, on a une critique de la presse, c'est inhérent à l'existence de la presse. Mais depuis quelques années, ça a pris un tour nouveau, avec le livre d'Halimi dont on a parlé hier, mais aussi bien le travail de Jacques Bouvresse, de Bourdieu, le bouquin de Ruffin qu'on a évoqué récemment, qui sont quoi? Qui sont simplement des livres qui sortent, et puis le livre de Daniel Carton, aussi récemment, qui sont des livres et des auteurs et des journalistes ou bien des chercheurs ou des sociologues comme Bourdieu qui vendent la mèche, qui disent au public ce qui se dit à l'intérieur de ce monde intello médiatico politique. C'est ceux qui vendent la mèche qui vont dire à ceux qui sont dehors, voilà ce qui se passe dedans. Et c'est ce que fait aussi ce livre là, d'où cette émotion et d'où cette émotion et aussi expectative, hein, perplexité qui s'entend d'ailleurs, vous avez vu dans les messages, et qui, je crois, d'après ce que je crois sentir, on en est là à sentir, hein, je l'ai dit et je le redis, c'est un livre de 634 pages avec des enquêtes bien précises, très circonstanciées, extrêmement exemple. Et il faudra un certain temps pour vraiment se faire une opinion. Ce n'est qu'un début, et ce n'est, j'espère, plus qu'un débat. Mais en tout cas, ce qui nous encourage à vous faire partager ces débats, ces mots, ces échanges, c'est qu'il y a là une remise en cause de l'immunité et de l'impunité des médias, qui souvent, derrière un paravent moral, une fausse humilité, ne font que propager un cynisme conformiste, un nihilisme d'époque et un cynisme refondateur. Et là-bas, si j'y suis, est opposé à tout cela.
Fox out front of a diplomatic bombshell for Saddam Hussein. You blew your final chance.
Pierre Péan, dans votre livre sur TF1, vous dites, bon ben Bouygues achète une télévision, c'est pour avoir un pouvoir d'influence.
Absolument. Hein,
voilà, c'est un pouvoir d'influence, point. Ouais. On n'a pas besoin de lire le bouquin, ça tient une phrase, tout le boulot. bon, voilà. Et là, c'est la même chose, finalement. Le monde a un pouvoir d'influence sur les entreprises.
Sauf qu'il n'y a pas eu un achat, tandis que Bouygues avait acheté, oui. Tandis que là, c'est une transformation. C'est une transformation de l'outil. Et je crois que c'est ça notre livre. On voit comment on décrit la machinerie même, comment fonctionnent tous les coins de cette entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on voit que seuls les rédacteurs montent au créneau. D'ailleurs, on les attaque peu, les rédacteurs, les journalistes. En réalité, pour comprendre cette machinerie, il faut voir l'ensemble. D'ailleurs, faut voir comment l'entreprise fonctionne, quel est leur rôle demain, comment tout ça s'articule. Et c'est pas, les rédacteurs ne le savent pas eux-mêmes comment ça fonctionne.
Quand on a dit Trotsko balade du rien, je reviens à cette expression qui date donc de 95, hein, oui. Philippe Cohen. C'était bien trouvé quand même. C'est une drôle d'alliance. Je crois que c'est Cabu qui a dessiné, ouais, les trois pieds nickelés, Filochard, Croquignol et... J'ai oublié le troisième. Rebouledingue,
non,
oui, c'est ça. C'est assez rigolo. Voilà, ça fait quand même un trio assez extraordinaire.
Oui, alors je signale que sur le Trotsko, pour la petite histoire, que sur le Trotsko banalisme, en commençant l'enquête, j'étais persuadé que le terme a été inventé par Jean-François Kahn. Et il y a des journalistes du Monde, à l'intérieur de la rédaction, qui m'ont dit pas du tout, c'est ici... dans la description de ce qui se passait en 1994-95, la prise du pouvoir de Colombani-Meng Plenel, que le terme a été
mais sérieusement,
inventé.
Sans humour.
Ah non, non, oui, sans humour, oui. Donc c'est à partir de là que ça s'est fait. Oui, ce qu'il y a de... Alors, l'expression trotsko-baladirisme, elle veut dire quoi? Elle veut dire que c'est une alliance, si vous voulez, où on mélange finalement une acceptation, voire une soumission totale aux règles du néolibéralisme, combiné avec un très grand radicalisme dans le domaine sociétal. Hein. Le Monde est ultra féministe, il soutient beaucoup les nationalistes corses, il est de toutes les modes, il soutient énormément les mouvements radicaux homosexuels. Vous voyez, il fait des, quand il y a Love Story, il en fait une affaire d'État.
Ce sont des leurres médiatiques, vous appelez ça des leurres.
Monsieur Boeuf-Méry doit faire la rotative dans sa tombe quand il doit voir des choses pareilles.
Il est 15h35. L'ONU confirme que les forces serbes bosniaques ont évacué ce matin le mont Bejarista. L'armée libanaise commence à se déployer dans le sud du pays, là où sont les casques bleus de la FINUL. Les gens de Wadaï protestaient contre un massacre commis mercredi dernier près d'Abéché par des commandos non justifiés et non identifiés. Il y avait eu 80 morts. Il est juste 15h38.
Crise de confiance ou prise de conscience, on sait à travers les sondages, avec toutes les réserves qu'il faut faire sur les sondages bien sûr, que la confiance des Français vis-à-vis de leurs médias n'est pas au plus haut, même si la confiance est plus grande vis-à-vis des médias radio, et tout spécialement vis-à-vis de notre radio que vis-à-vis des autres médias. Mais c'est quand même, il y a bel et bien une crise de confiance, un manque de confiance, et s'il y a quelque chose en quoi les lecteurs et les Français ont confiance, c'est le Monde chaque jour, le Monde, lire le Monde, c'est voilà, là on a confiance, là c'est sûr, on peut compter dessus. Eh bien voilà ce que remettent en cause Pierre Péan et Philippe Cohen dans La Face cachée du Monde.
Vous dites un mot dans votre bouquin, notre condamnation, parce que c'est ça quand même, c'est véhément ce bouquin, c'est stimulant. Et vous dites, notre condamnation n'est pas morale, elle est politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
On a retrouvé, on le cite dans le livre, une citation de Boeuf-Méry disant que lui, il trouvait que c'était très dangereux de mélanger la morale et la politique. Et d'ailleurs, dans ce livre qu'on cite, il exprime des réserves quasiment explicites sur l'enquête du Rainbow Warrior. Hein, c'était tout à la fin de sa vie, c'est le dernier livre d'entretien qu'il a fait, qui a été réalisé notamment par Jean-Claude Barrot. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, contrairement à Edoui Plenel, par exemple, on ne se situe pas sur le terrain de la morale. D'abord, on est enquêteur, on essaye d'enquêter, de collecter un certain nombre de faits, et puis après, on essaye de proposer un certain nombre d'interprétations. Et encore une fois, d'ailleurs, pas exhaustif, c'est-à-dire que il y a des pistes. Bon, alors tout le monde se précipite, se focalise sur l'idée de la francophobie. Mais bon, voilà, c'est deux choses, c'est deux plans différents. Si c'est vous deux.
On ne peut pas se focaliser sur cette francophobie, parce que les auditeurs ne sont pas tous au courant encore pour l'instant. C'est vous avez des passages dans votre bouquin où vous dites oui, le monde est francophobe. Au sens où il y a un choix de sujets qui sont toujours au détriment de l'image du pays. Ça, c'est votre nationalisme républicain, Philippe Cohen, là, qui s'exprime.
Mais non, écoutez, c'est pas ça.
Je sais que vous adorez quand vous dites nationalisme et un petit peu plus loin républicain.
Oui, ça, c'est une invention de camarade Plenel. Mais moi, je me suis dit, à l'époque où cette qualification était apparue, je me dis républicain. Pourquoi rajouter national républicain ? Et d'abord, la République, c'est vrai qu'elle existe d'abord dans un pays. Qu'est-ce que j'y peux ? Elle peut être en même temps universelle. Donc, il n'y a pas en réalité de nationalisme. Simplement, ce qu'on veut dire à travers cette histoire de francophobie, c'est quand on pose la question, c'est la question centrale, enfin, une des questions centrales du livre, c'est le monde est-il intéressé ou désintéressé ? Autrement dit, si on dit désintéressé...
Et le mot désintéressé, c'était le mot d'Hubert Boeuf-Méry.
Tout à fait.
Je veux des rédacteurs subjectifs peut-être, mais désintéressés en tout cas.
Voilà. Et alors, est-ce que, par exemple...
ce qu'il disait, je crois pas trop me trahir.
Est-ce que le monde est porteur d'un certain nombre d'idées actuellement, hein, le nouveau monde est porteur d'un certain nombre d'idées d'engagement politique. Il a fait de l'affaire de la torture dans la guerre d'Algérie un problème majeur de la France d'aujourd'hui, de la question du retour sur l'histoire de Vichy.
On peut pas reprocher.
Je vous dis, là, c'est factuel. Je vous dis, il a mis en avant. On lui reproche pas de le mettre en avant. On lui reproche de le mettre en avant exagérément, ou plutôt, comme il l'a fait d'ailleurs pour le cas de François Mitterrand, de réduire, si vous voulez, la France pendant l'occupation à la collaboration, c'est trop réducteur. Il y avait aussi des résistants, c'était important. C'est pareil que de réduire l'histoire de Mitterrand, elle n'est pas noire ou blanche. C'est un parcours qui amène un jeune homme, un homme, si vous voulez, d'une espèce d'orientation très à droite. Qui l'amène à plus ou moins participer à Vichy, et puis qui l'amène à la résistance, dans laquelle il est courageux, il prend des risques physiques, etc. Donc pourquoi arrêter l'histoire de François Mitterrand en 42? Pourquoi réduire la France simplement à la torture, à la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, ou à la collaboration? Il y a à chaque fois, il y avait deux France.
Moi qui n'ai pas d'étiquette, mais je la formule, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe, je le formulerai un tout petit peu différemment, c'est le côté campagne, c'est pas le côté de devoir d'informer. Nous sommes évidemment pour le devoir de mémoire, par exemple si on reprend, mais que ce soit donc... Ce que nous reprochons au monde, c'est de monter en mayonnaise un certain nombre de choses. De la même façon qu'il y a, c'est pas l'information sur François Mitterrand, c'était de l'acharnement. À l'égard de Chirac, c'est de l'acharnement. À l'égard de la présentation de la guerre, c'est de l'acharnement. C'est-à-dire, c'est de présenter, de gonfler énormément. C'est-à-dire, et de la même façon, de gonfler énormément la, moi, je suis d'une...
Mais sans qu'on puisse, Pierre Péan, sans qu'on puisse définir parmi ceux qui sont haïs et ceux qui sont chouchous, chouchouter, les exécrer, les chouchouter. Du monde, sans qu'on puisse définir.
Non, mais là, je parlais seulement de, sur le, parce que ça va revenir beaucoup. Ça vient sur l'histoire de la francophobie. Je voulais, c'est pas les thèmes qui, sur lesquels on les reproche. C'est sur le gonflement des thèmes. C'est-à-dire de telle sorte que ça donne une déformation des visages, et ça donne une déformation des choses. Alors, le problème des haines, des gens est une autre, c'est une autre question, c'est d'autres chapitres aussi.
Et des gens qui peuvent pas se défendre. Là, on retombe sur le thème de impunité, immunité, abus de pouvoir.
Oui, et puis c'est, si vous voulez, ce traitement obsessionnel est quand même pose un problème parce qu'on est on a un moment de l'histoire en même temps où ce qui compte, c'est la transmission. Hein, on est à un moment de passage de génération, de moment de la disparition de la génération justement qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'autant plus important que on ne rentre pas dans un système de caricature, parce que ça c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ça le devoir de mémoire pour moi.
Se tarise à penser dans les milieux autorisés qu'il y a un accord secret. Alors, vous savez ce que c'est qu'un accord secret? C'est un accord dont qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est interdit, donc pas dans l'information non plus. Qu'un accord secret pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et alors, moi, je dis que quand un mec, sur une information, il n'en connaît pas plus que ça, il a qu'à fermer sa gueule.
Alors, que serait pour vous un nouveau monde?
On n'est pas on peut pas être dans la nostalgie. On a bien qu'on n'est pas complètement idiot. On pense pas qu'il faut que le monde redevienne comme il était en 1972 ou 74. Hein. Donc il y a quelque chose, c'est vrai, qui est à inventer, mais en posant les problèmes, je dirais, un tout petit peu différemment. C'est-à-dire, ce qu'on peut constater simplement au niveau des ventes, c'est que l'idée de faire des unes émotionnelles, de faire ces unes de chasse à l'homme, toute cette politique spectaculaire, si vous voulez, au fond, commercialement, ne marche pas tellement. Parce que dans ce domaine-là, quand même, la presse people et les télés feront de toute façon beaucoup mieux que la presse écrite. La presse écrite, moi, c'est ma conviction profonde comme journaliste, hein, c'est que elle doit jouer sur son atout. Et son atout, c'est de faire justement tout ce que ne peut pas faire les médias audiovisuels et même radiophoniques, c'est-à-dire d'aller au fond des choses, de faire de l'analyse, d'avoir une information contradictoire dans laquelle les différents points de vue sont présentés, non pas côte à côte, mais confrontés. Si vous voulez, tout ce travail que faisaient très très bien les journalistes du Monde jusqu'aux années 80.
Mais là, on compare le monde au monde. Est-ce que vous avez regardé un peu dans les pays comparables aux nôtres, comment ça se passe?
Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le système, en tout cas, si vous voulez, qui capitalistique, qui a été inventé par le monde, est totalement singulier. Je ne crois pas qu'il y ait à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent d'entreprise de presse qui ait autant d'entreprises dans son capital, de grandes entreprises dans son capital.
Ce que vous dites là, ça me revient. Aussi, c'est l'influence sur la classe politique qui est terrorisée aussi par le monde chaque jour. Hein. Monsieur Clermont-Ferrand qui est trompé, dupé, enfin plus ou moins, mais il y a aussi toute cette classe politique qui chaque jour se dit qu'est-ce que...
Il y a cette phrase qui résume tout, c'est la phrase qui est dans le livre de Lindemann,
Marie-Noël
Lindemann, reprenant Jospin, disant fréquemment, on ne gouverne pas contre le monde. Je veux dire, ça résume tout.
Oui, c'est ça. C'est un journal qui est passé de genre respectable, un journal qui fait peur.
D'ailleurs, on le signale dans le livre, quand Monsieur Raffarin est arrivé à Matignon, il a raconté que une des premières choses qui l'a énormément surprise, c'est le fait que dans la vie de Matignon, il y a avant qu'arrive le monde et il y a après qu'arrive le monde. Hein, c'est-à-dire, il y a une tension qui retombe. Les gens sont tellement, ont tellement peur. Est-ce que leur travail va être commenté? Est-ce qu'il va y avoir un truc que...
Il y avait même la façon. Je crois qu'on l'a pas mis, ça, finalement. J'ai oublié de le mettre, mais il faudrait que je retrouve ça dans une prochaine édition. La façon dont on apportait le monde, dont un huissier l'apportait, était quelque chose presque religieux. Ouais, donc et donc Monsieur Raffarin était, je crois, très surpris de cette révérence, même dans le protocole.
Les réactions que vous avez, moi je pense que ce serait formidable en ce moment de suivre toutes les réactions à la suite de la publication de votre bouquin, non seulement dans les médias, ça c'est facile à recenser, mais dans le public. Enfin, il y a une étude sociologique à chaud à faire. On aurait peut-être un portrait du pays. C'est pas vous qui pouvez le faire en ce moment. Vous passez d'un micro à une caméra, d'une caméra à un micro. Mais il y a quelque chose qui se révèle un peu de ce pays en ce moment. Ça remue les choses, quoi, en profondeur.
Oui, moi je suis content d'une chose, parce que si vous voulez, on va comparer avec le bruit fait par le livre de Daniel Lindenberg, Les Nouveaux Réactionnaires, quelque chose qu'on pense de ce livre. Hein. Ce qui m'avait frappé quand ce livre était paru, c'est qu'au fond, on était dans un débat au sein de l'oligarchie. C'est-à-dire que c'était quand même quelques dizaines ou de milliers de personnes, mais il y avait beaucoup de passion, mais c'était un tout petit monde. Et moi, ça me fait peur. C'est-à-dire que ça me donnait l'impression.
On a oublié, déjà.
Oui, déjà. Oui.
Non, mais ça me faisait peur. Oui, mais rappelez-vous le torrent médiatique. On en parlait partout. Bon. Et ce qui me fait peur, c'est ça. C'était d'avoir cette espèce d'un débat cantonné dans une oligarchie, vous savez, germano-pratine. Et puis, le pays qui reste muet, indifférent, silencieux. Et là, je suis content de voir que dans des villages de 1000 habitants, 1500 habitants, il y a des gens qui viennent le matin, ils demandent le livre et que les gens, si vous voulez, vont se saisir de ce débat. Et ça, c'était pour moi inespéré.
Pierre, tout à l'heure, je vous demandais, off record,
c'est off, bien entendu,
combien de procès en bientôt 30 ans d'enquête?
Je crois que je dois approcher la trentaine de procès.
Par bouquin?
Non, il y en a eu un. Non, il y a des bouquins où il n'y en a pas eu, mais Affaires africaines, je crois qu'il y en a eu 11 ou 12 en 1983. Ouais. Ça, c'était, à la longue, ça faisait peur, quand même, parce que, mais, bon, ça, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que j'écris plus pareil, évidemment, que par rapport à il y a 20 ans. D'abord, je crois qu'on peut écrire à peu près ce qu'on veut quand on reste confidentiel. Je pense à 5000 exemplaires, on peut écrire ce qu'on veut. Déjà, quand on arrive à 15 000, c'est un problème. Mais quand on est là sur des chiffres importants, faut écrire différemment.
Quelle est la mise en place? 60 000, on a dit.
On est demain, on est à 100 000. Hein, donc le procès.
632 pages. Non, les Français vont lire. Hein.
Ils vont acheter, c'est déjà.
On sait quand même qu'il y en a beaucoup qui vont lire.
Ouais. Mais le livre est on peut le lire d'une seule traite, mais on peut aussi
chapitre par chapitre,
c'est des histoires. Chaque chapitre est une histoire.
Ouais. Enfin, nous on l'a conçu comme ça. En tout cas, je sais pas.
Et donc les procès, pour revenir au procès, il est évident que le livre a été relu par des avocats, que tout ce qu'on avait, il y a des choses qui ont été censurées. Probablement pas tout, on verra bien, la justice, comme on dit, tranchera.
C'est un peu triste quand même, pour revenir encore une fois là-dessus, qu'on aille vers les tribunaux et non pas sur un débat dans les pages Horizon du Monde. Ça aurait pu faire formidable, ça pourrait faire vendre le journal.
Peut-être qu'ils vont le faire, donc faut pas préjuger. Peut-être qu'un certain nombre de plumes très acérées se préparent à critiquer le livre dans les colonnes du Monde, c'est pas exclu. Hein.
À l'aube, je suis allée dans le jardin voisin. J'ai vu une Moldave au teint hâlé qui ramassait du raisin. Je rougis, je blanchis. J'ai envie de lui dire tout à coup, viens, on va à la rivière. On va voir les aubes de l'été. Un érable bouclé. Un érable vert au feuillage ciselé. Près de cet érable, nous allons nous séparer. L'érable est vert, l'érable est bouclé. Et le feuillage est ciselé. La Moldave au teint hâlé dit au jeune homme, on va former un détachement moldave. Et les partisans, le soir, quittent leur maison natale et partent dans la forêt épaisse. L'érable bouclé, Mère, au feuillage ciselé, près de cet érable, nous allons nous séparer. L'érable est vert, l'érable est bouclé, ses feuilles sont bouclées. La Moldave est un allée, partie sur un sentier dans la forêt. Et moi, vexée qu'elle ne m'ait pas appelée.
C'est bien.
Faut
pas lui dire.
Est-ce qu'on chante le troisième couplet et après vous jouez?
Oui.
La Moldave est un allée, partie sur un sentier dans la forêt. Et moi, vexée qu'elle ne m'ait pas appelée avec elle. La nuit, je pensais très souvent à cette Moldave où t'es allée. Et tout à coup, j'ai vu cette Moldave dans le détachement. L'érable est vert et bouclé, son feuillage ciselé. Salut mon gars, mon aimé. L'érable est vert, l'érable est bouclé, et bouclé et ciselé.
Bonjour, je suis un fils d'émigrés russes de 1922, j'ai 70 balais et deux cousines en Russie. À 15 et 16 ans, elles étaient estafettes en moto dans l'armée rouge à Stalingrad. L'une a perdu ses deux jambes en tombant 80 à l'heure dans un trou d'obus allemand qui venait d'exploser. Elle a vécu depuis avec des jambes artificielles. Pourquoi elle s'évertue à me convaincre des bonnes intentions de Poutine en Tchétchénie, dont les habitants sont tous des terroristes? Je pose la question. Alors je leur fais part à chaque fois des exactions russes pour la destruction d'un petit peuple, au même titre que les SS partout en Europe. Que fait Chirac?
Super, ben le message de cet auditeur et qui inaugure très bien la semaine prochaine. Dans la base, si j'y suis, on part pour Stalingrad, pour la mémoire de l'Est, mémoire de cette autour de cette bataille dont c'est le 60e anniversaire, et c'est aussi le 50e anniversaire de la mort de Staline, qui nous donnera l'occasion de recevoir un homme considérable, un historien, Moshe Levin, qui sort ces jours-ci un livre qui s'intitule « Le siècle soviétique ». On parlera de tout ça. Alors je vous rappelle encore une fois le bouquin de Pierre Péan et de Philippe Cohen, c'est « La face cachée du monde », c'est aux éditions Mille et une nuits. Merci à la jeune fille qui chantait, Katia, on la retrouvera aussi dans ces émissions, c'est une fillette qui doit avoir 11 ans, et puis vous avez reconnu déjà la voix de Aude Merlin qui a traduit en même temps. Il y a un bouquin formidable qui sort ces jours-ci aussi, qui s'appelle « Si je mourais là-bas », un très beau titre, qui renvoie évidemment à Guillaume Apollinaire, et qui est signé d'un reporter qui s'appelle Dominique Le Guilloudou et qui est reporter au Monde. Alors le livre est excellent, je l'ai parcouru, c'est très beau, et puis c'est une façon d'éviter qu'on confonde les journalistes et leurs journaux, et qu'on évite de tomber dans un journaliste tous pourri qui serait une vraie catastrophe et qui sortirait du débat et des critiques que nous espérons. Technique aujourd'hui, Michel Thomas et Christian Buton, assistant de Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. La réalisation, c'est Antoine Chao, évidemment, et l'assistance, c'est Coy Nguyen, qui s'occupe de la réalisation de la musique. L'email, daniel.mermet@radiofrance.com. Et voilà, il n'y a pas de réclame aujourd'hui, si, un petit peu, monsieur Chao, module.
Там, где я нахожусь, là-bas, si je suis.
Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.